Nicolas de venir consacrer du temps à notre association Un Esprit de Famille. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas, Nicolas est aujourd'hui professeur de sociologie à Paris 8 Saint-Denis. Il a fondé il y a quelques années le Philanthropy and Social Sciences Program, qui est une association, qui permet d'échanger sur les politiques, enfin sur la philanthropie et les sciences sociales. Et il est également président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui est rattaché au service du Premier ministre. Et en fait, si vous êtes tombé dans la philanthropie, c'est probablement parce que vous avez été, il y a en 2010, le premier lauréat du prix de recherche Caritas. Et Caritas a apprécié vos travaux et vous a demandé ensuite d'étudier les fondations familiales et hébergées chez Caritas. Et c'est à cette occasion-là que plusieurs d'entre nous avons été en contact avec vous. Et vous avez donc publié l'année dernière un livre qui s'appelle « L'avenir confisqué », qui parle surtout de pauvreté et de la situation des personnes précaires, mais également de la façon dont les personnes qui maîtrisent leur avenir, donc les personnes suffisamment fortunées pour ne pas s'inquiéter de leur avenir, gèrent leur philanthropie. Alors, est-ce que vous pouvez... On va donc échanger sous forme de questions pendant une demi-heure, et puis ensuite chacun vous pourra aborder, compléter les questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la base de votre analyse sur l'avenir confisqué, sur la subjectivité en sociologie ?
D'abord, merci pour votre invitation et merci pour le dialogue, Isabelle. Merci, je suis ravi d'être parmi vous pour cet échange de restitution. Alors, l'idée centrale du livre, elle est assez simple à résumer. C'est de dire qu'en général, en sociologie, dans les sciences sociales, on considère qu'il y a des structures, il y a des grands ensembles impersonnels, le travail, la famille, l'école, les institutions qui organisent la vie des gens. Et donc on s'intéresse au vécu, à la subjectivité de manière très, très tardive et très partielle, en considérant que c'est le tout qui vraiment organise la vie des gens. Et donc ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent est quelque chose de tout à fait secondaire dans l'analyse. C'est souvent comme ça qu'on présente la sociologie de l'extérieur ou les sciences sociales. Et c'est souvent comme ça qu'elle fonctionne aussi en réalité. Et le parti pris de l'ouvrage, c'est de prendre les choses vraiment de manière totalement différente et de partir de la subjectivité, partir de ce qu'on appelle dans le débat public, dans les médias, le ressenti des gens, de la population, pour reconstruire l'analyse de la société, de se dire, prenons très au sérieux ce que disent, ce qu'expriment les personnes qu'on peut rencontrer ou qu'on peut interviewer dans des enquêtes statistiques, et partons de ce ressenti pour essayer de représenter la société, ses évolutions, ses divisions, éventuellement ces formes de conflits. Et donc le point de départ, c'est vraiment un peu de renverser la méthode traditionnelle et de dire la subjectivité, le point de vue, n'est pas quelque chose qu'on va endosser, parce qu'évidemment, ça serait ascientifique, ça serait problématique, ça serait vraiment une manière de renoncer à une exigence de scientificité. Là, c'est de dire, prenons le parti d'écouter, de considérer que dans les sociétés humaines, ce sont des humains, des êtres humains auxquels on a affaire, et qu'il faut respecter la parole qu'ils ou elles émettent. Et à partir de là, de se donner comme objectif d'être en phase avec une construction d'analyse, une construction d'objets et une construction d'une représentation de la réalité qui soit scientifique. Il y a un exemple, je vais être trop long et puis vous m'arrêtez hein, pour passer aux questions suivantes, mais il y a un exemple qui illustre cette idée que le subjectif n'est pas quelque chose qui va s'opposer à la scientificité, c'est au contraire un adjuvant, c'est quelque chose qui va être un aiguillon d'une démarche scientifique. Vous en entendez souvent parler dans les bulletins météorologiques, c'est la température ressentie, qu'on oppose à la température ambiante. Et parfois, on se dit, voilà, la température ressentie, c'est juste le doigt mouillé des gens qui sortent de chez eux, qui se disent, il fait chaud, il fait froid. Et donc, c'est juste la partialité du jugement personnel qu'on va opposer à une mesure conventionnelle qui est la température ambiante. Et en réalité, quand on regarde ce que les météorologues ont cherché à dire à travers cette idée de température ressentie, c'est tout à fait autre chose. C'est de dire la température ambiante, c'est une convention. Une convention, on met un thermomètre à l'ombre, donc il n'est pas au soleil, hein, on met un thermomètre à l'ombre et on observe la température qu'il va que le mercure va faire ressortir après un certain temps d'exposition. Et donc c'est une convention. Et la température ressentie, c'est simplement une manière d'enrichir, d'améliorer la convention de la température ambiante en intégrant d'autres paramètres qui nous donnent à penser, de manière très crédible, que nous vivons physiologiquement la température différemment. Quand il fait froid, quand il fait très froid, et qu'il y a du vent, le vent chasse une légère couche d'évapotranspiration qui maintient votre corps à température autour de 37 degrés. Et donc, le vent vous oblige à consommer plus d'énergie pour vous maintenir à votre température. Et donc, la combinaison de la température extérieure et du vent fait que, réellement, il fait plus froid pour vous. Et c'est ça qu'on appelle la température ressentie. Et inversement, quand il fait très chaud, et que le temps est sec, vous ressentez physiologiquement les choses d'une certaine manière. Mais quand il fait très chaud et que l'air est humide, la combinaison du facteur de l'humidité et de la température fait que votre corps n'est plus en capacité de se réguler thermiquement. Et donc le même problème que quand il fait froid et qu'il y a du vent, vous ressentez les choses de manière beaucoup plus intense lorsque vous avez une combinaison de température élevée et d'humidité. Et donc, quand on a des plans juste de prévention des effets des canicules, ce qu'on regarde, c'est pas tellement la température ambiante, c'est la combinaison de la température et du degré d'humidité de l'air, parce que c'est là qu'il y a danger pour les personnes vulnérables, pour les personnes âgées, pour les personnes isolées. C'est cette combinaison de facteurs qui s'appelle ressenti, mais qui est en réalité une construction scientifique plus raffinée qui va chercher à dépasser une vision purement extérieure pour aller, encore une fois, essayer de porter la démarche scientifique jusqu'à une expérience vécue qu'on va construire scientifiquement. Donc le ressenti, ce n'est pas le doigt mouillé, c'est une construction scientifique très raffinée qui donne à se voir et qui expose ses hypothèses, qui expose les paramètres et qui donc les confronte à la discussion, la critique. Et donc c'est vraiment ça la démarche du livre. Alors vous allez me dire quel rapport avec la situation des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou avec la richesse. Je pense qu'on peut tout à fait transposer ce type d'analyse qu'on connaît aujourd'hui sur la température dans d'autres domaines, dans le domaine par exemple de la santé. C'est un exemple que moi j'aime beaucoup aussi parce que là pour le coup, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, les épidémiologistes, on en a beaucoup entendu parler pendant la crise sanitaire, sont des gens qui travaillent avec des cohortes absolument considérable, de centaines de milliers ou de millions de personnes. Donc, ils peuvent faire du travail statistique extrêmement robuste. Et qu'est-ce que montrent les épidémiologistes ? Quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est que si vous voulez prédire la dégradation de l'état de santé d'une personne, il vaut mieux regarder la manière dont elle se représente sa situation sociale que d'essayer de la reconstruire de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que la manière dont on se représente sa situation sociale permet d'intégrer des paramètres plus riches, plus complexes, différents. Je prends juste un exemple très simple. Dans cette salle, certainement, beaucoup d'entre vous ont des diplômes supérieurs. Mais ça, c'est ce qu'on peut mesurer. Si je fais une enquête statistique, je vais vous demander quel est votre niveau de diplôme. Vous direz bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, etc. Mais si je vous demande, vous, en termes de diplôme, est-ce que vous pouvez me donner votre position sociale ? Vous avez une lecture interne plus fine du type de diplôme que vous avez obtenu, de la hiérarchie des écoles dans lesquelles vous avez obtenu votre diplôme. Donc, quelque part, l'information est plus précise. Et l'information subjective nous donne une idée plus avancée, plus rapprochée de la réalité, la finesse de la hiérarchie, par exemple, des établissements d'enseignement supérieur, qu'une vision purement extérieure qui reconstituerait simplement un niveau de diplôme. Et c'est pour ça que le subjectif est plus prédictif. Il est plus en capacité de nous donner une idée de ce que sera demain l'état de santé, parce que l'état de santé, il est très corrélé avec la position sociale. Il y a même une étude, juste pour illustrer ça, qui montrait que parmi les nominés aux Oscars, celles qui avaient obtenu les statuettes avaient une espérance de vie de 4 ans supérieure à ceux qui n'avaient été que nommés. Parce que le fait de gagner la statuette fait un boost d'estime de soi qui stimule l'immunité. Non, c'est juste une illustration par. Mais c'est ça l'idée. C'est que vous avez des capacités, encore une fois, prédictives de ces mesures. Et en réalité, quand on travaille sur les inégalités et la pauvreté, et qu'on, voilà, par exemple la statistique publique, l'INSEE, les mesures que vous entendez dans le débat public, il y a 14% de pauvres en France, c'est-à-dire environ 9 millions de personnes, c'est une vision purement extérieure. C'est une vision purement extérieure qui résonne sur un niveau de vie médian qui est rapporté à la situation des personnes. C'est-à-dire on ne mesure absolument rien qui relève de la vie des gens, on mesure l'écart avec un niveau de vie qu'on considère comme moyen. Alors, donc on utilise la médiane, hein, parce que la médiane, elle coupe en deux et elle évite le poids des très hauts revenus qui fait qu'en fait la moyenne est très distendue. Donc on utilise la médiane, mais ça ne nous donne aucune information. C'est juste une convention, la mesure de la pauvreté qu'on utilise dans l'action publique, c'est une convention de mesure des inégalités. Ça peut faire sens, mais pour les gens, ça peut aussi ne pas faire sens. Et donc, quand on se dit qu'il y a dans le ressenti matière à enrichir l'analyse, ça permet d'être aiguillonné vers un certain nombre d'opérations. Et je vais juste en donner deux pour montrer la possibilité de transposition de ces analyses du subjectif sur les questions d'inégalité de pauvreté. On a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes émerger la notion de dépenses contraintes. Vous savez, cette fameuse idée que, en fait, si vous gagnez 1 500 € par mois, mais que vous avez 700 € de logement, plus 300 € d'énergie, plus 100 € de forfait téléphonie, etc., en fait, votre reste à vivre, arbitrable, il est de 100 €, 200 €, et parfois, il est négatif, en réalité. C'est ça, l'idée de dépenses contraintes. C'est toutes ces dépenses que vous ne pouvez pas ne pas faire pour continuer à vivre, et qui, en fait, mine votre liberté de choisir et de vivre avec une capacité, encore une fois, d'arbitrage sur vos comportements de consommation et donc, très concrètement, votre vie quotidienne. Et, en fait, quand on intègre ce paramètre de la contrainte sur les dépenses, déjà, on est en capacité de voir la société française complètement différemment. C'est-à-dire qu'on passe d'un taux de pauvreté d'environ 15%, et si on intègre ce paramètre des dépenses dites contraintes, c'est-à-dire si on analyse non plus le niveau de vie, les ressources, mais le niveau de vie arbitrable, ce qu'il reste une fois qu'on a fait toutes ces dépenses contraintes, on passe d'une situation où on a 1 Français sur 7 à 1 Français sur 3 qui est en situation de pauvreté. Donc avec vraiment un autre ordre de grandeur et une autre vision de la contrainte sociale dans notre pays. Et donc, à un moment donné, ce qu'on a fait avec un collègue qui travaille au ministère, c'est qu'on s'est dit, regardons les données dont on dispose, elles sont très bien construites, hein, elles sont représentatives de la population française, comme les sondages d'opinion, c'est très robuste. Et on s'est dit, regardons le subjectif en matière de pauvreté. Qu'est-ce qu'on voit? Qui se sent pauvre en France? Et là, on a tout un ensemble d'informations très intéressantes. C'est que c'est à peu près la même proportion, 13-14%, que le nombre de gens qui sont dits pauvres selon la mesure objective extérieure. Par la mesure du niveau de vie. Simplement, ce n'est pas les mêmes. Et on voit qu'il y a un recoupement qui est environ de moitié seulement. Et ça permet, du coup, la mesure subjective nous donne une autre information qui n'est pas meilleure, de la même manière que la température ressentie n'est pas meilleure que la température ambiante. C'est juste une autre information. Et en fait, tout le livre, c'est de se concentrer sur cette autre forme d'information qu'on peut saisir. Et qu'est-ce qu'on voit quand on demande aux gens s'ils se sentent pauvres, on voit plusieurs choses. On voit d'abord que les personnes qui sont bien identifiées comme en difficulté, les familles monoparentales, les chômeurs de longue durée, les allocataires de prestations sociales, sont bien sûr surreprésentés. Ils émergent dans ce groupe. Mais on y trouve aussi des petits indépendants, des agriculteurs, des artisans, des commerçants. On y trouve aussi des salariés en emploi, parfois en emploi stable. On y trouve aussi des retraités, et notamment des retraités locataires de leur logement, parce qu'ils voient, et ça donne vraiment l'idée de ce que mesure la subjectivité, les retraités locataires voient des pensions stagner et des dépenses augmenter. Et donc ils se sentent pris en étau. Pour eux, se dire pauvre, ça équivaut à dire « je ne peux pas voir le futur autrement que sous la forme d'une dégradation irréversible de ma situation. Et donc c'est pour ça que l'avenir confisqué, c'est vraiment l'idée que ce qu'on capte à travers le subjectif, c'est finalement une idée de l'avenir, et que ce qui compte, c'est le fait, pas tellement la différence ou l'écart de richesse entre les groupes, souvent dans les débats publics sur les inégalités, on dit il y a des très riches, il y a Bernard Arnault et puis il y a les autres. Et moi, ma conviction fondamentale, c'est que c'est pas tellement cet écart, bien sûr, ça compte, et ça compte dans le débat public, dans une société construite autour des valeurs liberté, égalité, fraternité, mais ce qui compte peut-être encore plus, c'est le fait que les ressources permettent ou non de se projeter positivement dans l'avenir. Et donc finalement, la qualité qu'il faut essayer de saisir, c'est est-ce que les personnes ont, dans les situations dans lesquelles se trouvent, ou pas, la possibilité de se projeter positivement dans l'avenir. Il y a un recoupement, évidemment, avec les ressources, on en parlera tout à l'heure sur la question de la philanthropie, mais c'est un recoupement qui n'est que partiel, parce que des personnes qui sont très pauvres monétairement, mais pour peu qu'elles vivent dans une famille ou en couple, ne se sentent pas pauvres. Inversement, des hommes, notamment, quand ils ne sont pas pauvres, ils sont au-dessus du seuil de pauvreté, mais quand ils sont isolés, se sentent pauvres. Et donc, en fait, ces non-recoupements, ces formes de recoupement, de non-recoupement, nous donnent des informations extrêmement précieuses pour analyser ce qui compte pour les gens, finalement, et pas ce qui compte pour des experts extérieurs aux situations qu'ils ne vivent pas. Si je peux résumer l'argument du livre, ce serait ça.
Merci. Dans la seconde partie de votre livre, vous parlez donc de ceux qui maîtrisent leur avenir et dont certains ont décidé d'accorder une part de leurs ressources ou de leur patrimoine à la philanthropie. Et en expliquant que donc, c'était pour beaucoup une recherche de pérennité, je me souviens même à un moment dans nos échanges, vous parliez de recherche d'éternité, je vous avais trouvé un peu...
J'ai écouté votre point de vue.
Oui, absolument. Pérennité. Et donc ça, je pense que beaucoup ici le comprennent, mais il y a aussi des philanthropes aujourd'hui qui disent, par exemple, qu'ils ne veulent pas encombrer leurs enfants avec leur projet philanthropique, et que donc eux n'ont pas d'ambition que leur projet leur survive, etc. Et même au sein des fondations qui sont chez Un Esprit de Famille, je crois qu'il n'y a que 20% des fondations qui portent le nom de la famille du fondateur. Donc beaucoup n'ont pas, c'est pas constitutif, disons, de leur projet, que ce soit porteur de leur nom. Qu'en pensez-vous ?
Alors, j'en pense plusieurs choses. La première, c'est que, effectivement, le dialogue a permis, voilà, et c'est vraiment très riche, d'affiner la sémantique. Notre seul outil professionnel, quand on est sociologue, intellectuel, c'est les mots, en fait. Donc, c'est le degré de précision dans la sémantique qu'on est en capacité d'obtenir. Et donc, effectivement, pérennité, c'est sans doute quelque chose de plus précis que éternité, qui convoque des référents plus transcendants, on va dire. Donc, c'était beaucoup, beaucoup plus juste, et donc je vous remercie pour la suggestion de correction, au passage. Mais, alors, deux choses par rapport à cette analyse et le lien avec la philanthropie. D'abord, je pense que je voudrais faire la transposition entre l'analyse de la pauvreté par le subjectif et l'analyse de la richesse par le subjectif. Parce que, au fond, c'est la même méthode qui est déployée, et avec vraiment un souci de cohérence entre la manière dont les catégories pauvres sont abordées, des classes moyennes. En fait, l'étage intermédiaire, c'est les classes moyennes qui sont en tension par rapport à leur projet de vie, leur capacité d'avoir une situation de mobilité ascendante. Je crois que c'est ça, un des nœuds de la crise sociale qu'on vit, c'est ce hiatus entre les projets des gens et puis les conditions matérielles de leur réalisation, de devenir propriétaire de leur logement, tout simplement. Je pense que c'est un point aujourd'hui très, très fondamental. Mais il me semblait intéressant aussi de consacrer une part à la question de la richesse, parce qu'elle est souvent évoquée et analysée d'une manière purement distributive. Au fond, ce qui caractériserait la richesse ou la prospérité dans notre société, ce serait le fait d'avoir plus de revenus ou plus de patrimoine, ou les deux, par rapport aux autres. Donc dans une vision, encore une fois, exclusivement relative, en disant il y a des ressources qui sont concentrées chez certaines personnes, et puis les autres en sont dépourvues. Je caricature, mais à peine, en fait, la réflexion qu'on a en général sur les inégalités, c'est de cet ordre-là. Certains ont plus, et d'autres moins. Et en fait, ce que la philanthropie, comme en fait une forme d'entrée oblique dans les mondes de la richesse ou de la fortune, permet de dire, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental, c'est très cohérent avec l'idée que ce qui caractérise la pauvreté, c'est pas tellement, bien sûr ça compte, l'absence de ressources, mais c'est l'incapacité ou la difficulté à convertir des ressources en projet d'avenir. C'est la capacité à, encore une fois, envisager le futur de manière positive. Et donc, à contrario, ce qui caractérise la richesse, je dirais que c'est pas tellement, c'est bien sûr le degré, le niveau de patrimoine, sa composition, sa diversité, la capacité à le faire vivre socialement, mais c'est le fait que les ressources sont mobilisées dans des projets. Et de ce point de vue-là, la philanthropie, c'est évidemment quelque chose, un ensemble de pratiques, un ensemble d'actions qui permettent d'illustrer une thèse plus générale sur ce qu'est la pauvreté, ce qu'est la richesse. La richesse, ce n'est pas seulement des ressources, c'est des ressources qui sont activées. Et qui sont activées dans des projets qui peuvent être des projets entrepreneuriaux, qui peuvent être des projets familiaux, et qui, là, en l'occurrence, des projets philanthropiques, des projets dédiés à l'intérêt général. Mais je pense que c'est important de changer le regard sur ce qu'on appelle la richesse, comme c'est important de changer le regard sur ce qu'on appelle la pauvreté. Et alors, vous pourrez me dire si vous pensez que ça correspond à votre expérience ou pas, mais je pense que c'est plus juste de caractériser la richesse comme une capacité de projection, une capacité d'anticipation pour soi, pour sa famille, éventuellement, pour la société, plutôt qu'un pur différentiel de ressources économiques. Et je crois que c'est plus juste, en tout cas ça me semble plus fidèle à ce que j'ai entendu, à ce que vous m'avez dit, pas vous Isabelle, mais de manière collective, et à ce que je perçois par rapport à des analyses qui souvent disent, voilà, la richesse elle est là, elle se reproduit, et je pense pas que ce soit si simple. C'est-à-dire, juste une parenthèse, mais un collègue qui travaille sur les très grands dirigeants des entreprises cotées, montre, il fait de la prosopographie, c'est-à-dire il analyse les parcours de vie, les ancrages familiaux des représentants des cadres très supérieurs des grandes entreprises. Il dit, c'est des gens qui viennent essentiellement de familles qui ont soutenu de manière très forte la réussite scolaire et qui en fait ont accédé à ces positions par le diplôme. Il y a peu d'héritiers familiaux, sauf dans des très très grandes entreprises qu'on connaît en général. Donc il dit, en fait, ceux qui accèdent aux positions dominantes sont issus de familles qui sont en projection vers l'avenir et qui investissent sur le destin éducatif de leurs enfants. Donc les analyses en termes de pure reproduction ne marchent pas tellement, y compris quand on prend des échantillons comme, on pourrait dire, les plus susceptibles de montrer la reproduction sociale à l'œuvre. Donc premier point, c'est que la philanthropie, à mon avis, est une voie d'accès, peut-être un petit peu oblique, mais qui permet de penser la richesse autrement. Je pense que dans le débat public, c'est important d'avoir aussi cette capacité à dire la richesse, attention, c'est pas du différentiel, c'est aussi une capacité plus grande. Et parce qu'au fond, derrière, se pose la question, qu'est-ce que l'action publique, qu'est-ce que les pouvoirs publics ont vocation à partager, démocratiser? C'est une capacité de se saisir de l'avenir. Et c'est ça, en fait, qui est derrière, c'est de dire, il y a vraiment un enjeu là de partage d'une forme de projection positive. Et sur la philanthropie, je vais répondre à votre question quand même, mais c'était important de dire que la philanthropie n'était pas, en fait, alors la philanthropie m'intéresse beaucoup, parce que j'y ai consacré beaucoup d'années d'études, beaucoup d'attention, mais là en l'occurrence, elle m'intéressait aussi parce qu'elle donne une voie d'accès à cette autre compréhension des positions sociales supérieures qu'on peut mettre en relation avec des positions sociales moins favorisées. Donc je pense que c'est important de le dire, parce que c'est ça l'objet initial. Alors, par contre, je dirais, la recherche de pérennité n'est pas nécessairement une recherche de pérennité au sens de la transmission familiale des œuvres ou des actions philanthropiques. C'est une dimension qu'un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées ont mobilisé en disant « ça serait important pour moi ». Alors d'ailleurs, souvent en sautant une génération, parce que c'est difficile d'impliquer ses propres enfants, la transmission est toujours difficile, mais bon, Freud a expliqué que l'histoire familiale, c'est une histoire à trois générations, et que souvent il y avait des choses qui se transmettaient à la génération N plus 2, mais pas N plus 1, parce que c'est plus difficile dans le conflit psychique. Bon, je ne suis pas psychanalyste, hein, mais disons que je pense qu'il y aurait une résonance pas totalement accidentel entre le fait qu'un certain nombre de philanthropes disent « j'ai plus de facilité finalement à transmettre quelque chose qui compte pour moi à la génération de mes petits-enfants plutôt qu'à mes enfants parce que voilà, bref, pour rentrer dans cette discussion, mais il est peut-être un petit peu tôt le matin pour faire ça. Le point essentiel, c'est, pour moi, c'est que la philanthropie, en fait, est une action qui projette l'individu au-delà de lui-même, dans l'intérêt général, et que l'investissement dans la transmission familiale est une des dimensions de cette pérennité. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire globalement les personnes qui donnent cherchent à avoir une action qui a du sens dans le temps, parce qu'elle agit de manière très large sur la société, et de dire seulement une partie des philanthropes concrets donnent le nom de leur famille à leur fondation ou souhaitent investir leurs petits-enfants ou leurs enfants. C'est une des dimensions, c'est un des canaux d'une action qui, en fait, signifie, et ça, c'est souvent dit de manière très, 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 très explicite, c'est une action qui a vocation à assurer, je veux dire, un certain nombre d'opérations, et parmi lesquelles, d'abord, la mise en cohérence des valeurs et des ressources. Ça me semble absolument fondamental. Pour un individu qui donne, c'est mettre en cohérence des valeurs personnelles, familiales, et des ressources qui sont mises au service d'un certain nombre de valeurs. Il y a une question de cohérence et de transmission familiale qui me semble quand même très importante. Alors il y a peut-être là, comme on dit, un biais de sélection qui est lié
à Caritas.
Bon, ça me semble tout à fait évident qu'il y a là une matrice culturelle qui est propice à la valorisation du lien familial. Mais enfin, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le mettre en œuvre et concrètement de l'organiser. Donc là, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il y a quand même une forme d'organisation. Il y a quand même une sorte de réflexion qui est traduite matériellement. Et puis, je dirais, il y a une dernière strate, donc satisfaction personnelle. Alors, plaisir, satisfaction, là aussi, la sémantique introduit des variations qui sont intéressantes. Cohérence et transmission familiale. Et puis, je dirais, à un niveau peut-être plus indirect, action sur la société, sur ses structures, sur ses valeurs. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aussi dit la capacité de se saisir du temps long, parce que si on agit sur la société, si on souhaite agir sur la société, c'est que déjà, on est par principe, mais l'allocation de capital dans des projets en est la traduction la plus concrète et la plus simple, c'est la capacité, finalement, de se saisir de l'avenir collectif en disant « j'ai une responsabilité de contribuer à l'organiser ». Et donc la philanthropie permet cette analyse qui requalifie ce qu'on appelle la richesse de la même manière que le début du livre essaie de requalifier la pauvreté à l'aune de la subjectivité, pour le dire.
Et vous expliquez très bien dans votre livre la satisfaction que les philanthropes que vous avez rencontrés retirent de leur projet philanthropique. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique que des gens très fortunés ne s'intéresse pas à la philanthropie, parce qu'il y a finalement assez peu de philanthropes.
Oui.
C'est une
question. Alors, et là aussi, je voudrais y répondre doublement, et en commençant par la dimension la plus indirecte. Je pense que le fait qu'il y ait peu de philanthropes, relativement, enfin, on va dire en tout cas en France, n'est pas quelque chose qui invalide le type d'analyse que je propose. L'idée clé, c'est-à-dire que la philanthropie est une action sur la société, sur soi, sur sa famille, sur la société, finalement, parmi toute une gamme d'actions qui peuvent être mobilisées dès lors qu'on a des ressources. Et donc, finalement, la philanthropie est une clé d'entrée qui permet de saisir une gamme des actions par lesquelles les groupes ou les individus qui ont des ressources sont en capacité d'agir sur leur destin individuel, familial et celui de la société. Donc c'est une clé d'entrée parmi d'autres qui a des spécificités, mais qui finalement va recouvrir tout un spectre d'actions, va donner accès à des rationalités qui recouvrent un spectre d'actions beaucoup, beaucoup plus large. Après, je pense que la philanthropie en France... Alors, elle ne souffre pas. Enfin, il y a une voilà. Je le suspecte, ce serait le cadre réglementaire, fiscal, qui, je pense que ce n'est pas l'obstacle. Je pense qu'il est vraiment très, aux yeux des praticiens, il est très satisfaisant. Il est très, et d'ailleurs, l'OCDE dit que c'est un des plus favorables, donc je ne pense pas que ce soit une difficulté qui est liée aux normes, aux cadres réglementaires qui régulent la philanthropie. Je pense qu'il y a, il y a un enjeu de considération de sa place et de sa responsabilité dans un contexte où l'État apparaît comme ayant un ensemble de prérogatives d'action, notamment en matière sociale, en matière de santé. Je pense qu'il y a une perception des rôles qui fait que un certain nombre de personnes qui pourraient être des philanthropes ne le font pas en se disant il y a un principe de subsidiarité à l'œuvre. Et finalement, c'est les pouvoirs publics qui se sont appropriés des responsabilités. Et bah, nous, à notre place, nous allons consacrer notre richesse à sécuriser d'abord la sphère privée, la sphère familiale, ou avoir des activités ou des formes d'investissement, d'autres formes que la philanthropie. Mais ceci dit, je pense que, c'est pour ça aussi que j'y ai consacré beaucoup de temps, que l'importance de la philanthropie ne peut pas être indexée sur la proportion du nombre de personnes fortunées qui donnent. Je pense que c'est un phénomène, c'est un ensemble de pratiques qui disent beaucoup plus de la société que ce qu'une analyse purement quantitative et à la valeur faciale ne pourrait laisser penser. Déjà, il y a peu de philanthropes, c'est un phénomène minoritaire, c'est à la fois une rémanence de tradition du catholicisme social qui était très très présent et qui reste très structurant de beaucoup d'acteurs, beaucoup de traditions, jusque y compris à aujourd'hui. C'est à la fois une rémanence d'un passé qui n'est pas révolu et une appropriation de référents anglo-saxons avec une philanthropie beaucoup plus centrée sur le give back, sur la capacité à rendre ce que la société nous a donné, etc. Donc c'est un hybride culturel. Et c'est un hybride culturel qui nous donne une clé d'accès, encore une fois, à un certain nombre d'évolutions, de frontières entre l'action publique, entre l'action privée, entre ce qui relève du patrimoine des ménages et ce qui relève du patrimoine collectif. Et donc c'est vraiment je m'en sers en tout cas comme un analyseur d'évolution sociale plus large et d'une qualification plus juste de ce que peut être l'action qui est autorisée, rendue possible, et qu'on s'autorise soi-même à avoir dès lors qu'on est doté de ressources.
Et ça n'empêche pas la critique qu'on entend fréquemment en France sur le pouvoir que s'arrogeraient les philanthropes à traiter de causes d'intérêt général en bénéficiant de d'avantages fiscaux, mais si on ramène ça aux proportions, la générosité en France, c'est moins de 10 milliards d'euros pour un budget de l'État de 450 milliards d'euros. Donc sur les 10 milliards d'euros de dons, on peut considérer qu'il y a peut-être 2-3 milliards d'avantages fiscaux, mais il y a 7 milliards d'apports. Donc on peut s'interroger sur cette critique un peu permanente sur le fait que les philanthropes s'approprient l'intérêt général ou décident d'orienter, alors que finalement ce sont des proportions de l'ordre, je ne dirais pas du négligeable. Mais...
Non, c'est, je comprends cette perplexité. Et je voudrais dire deux choses là-dessus. Parce que la première, c'est que le prisme du subjectif permet de poser les questions un tout petit peu autrement. Il y a des enquêtes qui montrent que les contribuables les plus importants, ceux qui sont les plus assujettis à la fiscalité, sont aussi, subjectivement, les plus satisfaits du système fiscal, les moins critiques. C'est un grand paradoxe, c'est-à-dire les plus assujettis, les plus gros contribuables sont les plus satisfaits, ceux qui expriment la plus grande compréhension du fait qu'ils soient assujettis. Et la philanthropie permet de donner une clé d'explication de ce hiatus. En fait. Pourquoi ? Parce que la philanthropie, c'est une des modalités par lesquelles en fait, on va asseoir une forme on va dire, de personnalisation d'une toute petite partie peut-être de la fiscalité, mais néanmoins, on peut entrer dans un rapport contractuel avec ce qui apparaît pour des classes populaires ou les classes moyennes, comme une pure obligation qui vient de l'extérieur. Et donc, ce qui est très intéressant dans la philanthropie, c'est que ça permet de répondre, et pour moi, c'est toute la clé de l'analyse, c'est de dire, alors, la critique que vous évoquez de la capacité de contrôle des choix collectifs, elle me semble à la fois pas correspondre au point de vue subjectif, mais pas totalement infondée. Il y a de fait une capacité assise par un soutien des pouvoirs publics à cadrer un certain nombre de choix collectifs. Mon point de vue, c'est pas un problème. C'est un problème si ça n'est pas, si ça n'est pas quelque chose qui est diffusé et qui est rendu possible à des catégories plus modestes. Ça peut être par des chèques, par des bons, par des crédits d'impôt, etc. Je pense que la capacité contributive, en quelque sorte, c'est quelque chose qui permettrait de répondre à une forme de crise démocratique. Parce que je pense que les philanthropes ne la subissent pas de manière aussi intense, parce que précisément, il y a une capacité d'action. Il y a le sentiment de faire des choses pour la société. Et le drame, c'est toutes les catégories qui se sentent dépossédées de leur voix dans la société. Donc peut-être que c'est la diffusion de cette capacité, y compris par des véhicules fiscaux, qui pourraient contribuer à répondre à la... Donc le problème n'est pas la déduction fiscale. C'est le fait que des groupes qui pourraient contribuer, qui pourraient avoir leur part à la construction de la société, en fait, ne sont pas aidés de la même... C'est la symétrie, en fait, qui, de mon point de vue, pose problème. Après, je pense que là, c'est une réflexion que je partage, et je suis heureux de la partager porte-close, parce qu'elle est importante pour voilà, les acteurs que vous êtes. On peut dire, c'est ce que vous dites, en fait, ça ne représente quasiment rien, et puis alors, vous le rapportez au budget de l'État, mais alors le budget de la Sécu, qui est deux fois supérieur au budget de l'État, on pourrait dire, c'est encore plus une goutte d'eau, si vous voulez, ces déductions fiscales, au regard de ces sommes absolument gigantesques. Mais je voudrais faire le même raisonnement qui est celui que je propose sur la question des inégalités. Parce que moi, travaillant dans un ministère, j'étais obligé de sortir un tout petit peu de mes évidences de prof à Paris 8, où je disais les inégalités augmentent. Et parce qu'en fait, vous avez des gens qui vous disent regardez les données. Si vous regardez depuis 50 ans, la pauvreté a été divisée par deux, les inégalités ont baissé. Le diagnostic n'est pas bon, alors quand on a un tout petit peu d'intégrité, alors pas forcément beaucoup, mais juste un tout petit peu, on est obligé de se dire, on ne peut plus dire les inégalités explosent. Alors, est-ce que ça veut dire que tout va bien? Pas forcément. Ça veut dire qu'il faut changer de diagnostic, c'est-à-dire les inégalités n'explosent pas. Par contre, dans une situation où les inégalités étaient plus élevées, objectivement, les 30 glorieuses, pour dire simplement, le sentiment de sécurité était croissant. Les gens pensaient que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, une situation objective plus grave était plus facilement acceptée parce qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler un principe de satisfaction différée des besoins. Mais moi, je vois mes beaux-parents qui n'ont jamais fait de voyage, qui ne sont jamais sortis de leur patelin. En fait, on fait faire des études à leurs filles qui, aujourd'hui, ils avaient cette conviction-là. Que c'était pas pour eux, mais que ça viendrait demain. Les immigrés de première génération sont aussi beaucoup plus optimistes que les Français, malgré des conditions de logement, des conditions absolument épouvantables. Ça se dégrade très fortement à la seconde génération, parce que les enfants perçoivent des barrières que leurs parents n'avaient tout simplement pas à l'esprit. Donc, et en fait, je pense qu'il faut analyser les choses de manière dynamique et pas à la valeur faciale des proportions. Et quel lien avec ce... Ben en fait, quand on regarde la philanthropie, effectivement, à la valeur faciale des proportions, c'est tout à fait résiduel. Dans les dépenses publiques, les déductions fiscales sur les dons, c'est rien du tout. Ça, on est d'accord, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, quand vous regardez la dynamique sociale, quand vous regardez la compréhension, peut-être la dynamique sociale, la compréhension que nos concitoyens ont de la dynamique sociale, qu'est-ce qu'ils perçoivent? Ils perçoivent un déplacement de la capacité d'initiative de ce qui relève des pouvoirs publics à ce qui relève de l'initiative privée. Et ils se disent, les ressources pour faire, les ressources pour agir, se sont déplacées, ont été transférées. Donc même si les budgets sont proportionnellement beaucoup moins importants, la capacité d'initiative objective et la perception d'une capacité d'initiative a changé. Et c'est ça qui est, si vous voulez, le terreau de la critique qui après apparaît, émerge chaque fois qu'il y a un événement, un don, Notre-Dame, les Restos du Cœur, avec peut-être des maladresses de communication en fait, qui entourent et qui contribuent un peu au problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre au sérieux cette perception Juste un exemple très simple. Regardez ce que c'est que le budget du ministère de la Culture. Aujourd'hui, le budget du ministère de la Culture, c'est simple. C'est des très grands établissements, le Louvre, Orsay, etc., qui plombent totalement, qui saturent les crédits de ce ministère. Il est complètement plombé par ce patrimoine, là pour le coup, écrasant comme un château de famille que l'histoire aurait légué, rue de Valois. La capacité à faire des choses du ministère de la Culture au début de l'année est nulle. Sans mécénat, sans rien, ils ne peuvent rien faire. Et alors, à côté, vous regardez, il se trouve que hier j'étais à la Bourse du Commerce, à la Fondation Pignon, vous voyez une initiative qui porte, je veux dire, qui rayonne de ressources, de capacités à innover, etc. Évidemment, à la valeur proportionnelle, c'est quand même, ça reste beaucoup moins que le budget du ministère de la Culture. Mais dans la perception qu'on peut avoir de la capacité d'innover, de se projeter, d'agir sur la société, en fait, on perçoit un différentiel et un déplacement, un changement de main, si vous voulez, de l'initiative. Et c'est ça qui constitue, à mon avis, le soubassement de cette critique qui se porte sur le don, qui se porte sur la philanthropie, mais qui, en fait, vise ou exprime la perception pour un certain nombre de groupes d'une forme de dépossession de la capacité d'initiative. Donc c'est ça que moi je pense qu'il faut vraiment se méfier, à la fois en termes d'inégalité et à la fois sur la philanthropie en particulier, d'une analyse purement on va dire quantitative et proportionnelle des phénomènes. Et pour ça que la philanthropie, moi, m'a toujours passionné, parce que je me suis dit, il y a là des personnes, des initiatives, des actes qui sont posés, qui constituent un analyseur de la société à nul autre pareil. Et je pense que ça répond en partie à votre question. L'attention, c'est juste, on a eu cette, enfin, on pourrait dire, la directrice de la Fondation nationale des sciences politiques était interviewée suite, vous avez entendu ça, les affaires d'antisémitisme à Sciences Po il y a quelques jours. Elle était à la radio et elle a dit, bon, complètement lamentable évidemment, elle a dit, mais notre institution reçoit beaucoup trop d'attention par rapport à ce qu'elle est. Et c'est là qu'elle, quelque part, elle a tort. Parce que l'institution représente beaucoup plus que ce qu'elle est dans le budget de l'enseignement supérieur. Parce qu'évidemment, elle a un rôle, elle a une fonction. Et je ferai la même analyse sur la philanthropie. Elle représente plus que ce qu'elle est à la valeur monétaire.